nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Le vendredi 30 novembre 2007, dans les salons du ministère de la Culture, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui fut président de la République de 1974 à 1981, assistait à la présentation officielle de l'ouvrage qui présente l'inventaire des archives de la présidence durant son septennat. Cette présentation, qui avait lieu dans les salons du ministère de la Culture, en présence de Madame Christine Albanel, actuelle ministre de la Culture, laquelle a prononcé des mots d'accueil chaleureux en rappelant combien, durant le septennat de Giscard d'Estaing, avait soufflé sur la France un vent de modernité, je la cite. Modernité notamment en matière de conception des archives présidentielles. Après cette allocution d'ouverture, c'est le président lui-même qui a pris la parole. Canal Académie l'a enregistré dans les conditions du direct.
Je suis venu pour assister à la présentation de cet ouvrage remarquable. Il n'est pas remarquable parce qu'il porte sur les archives, il est remarquable en soi. Il exprime le point d'arrivée d'un rêve, d'une ambition que j'ai conçue dès mon accession à la présidence de la République, en fait. Je suis entré à l'Élysée le 27 mai 1974. J'ai circulé dans le bâtiment à la recherche de dossiers, d'images. Il n'y avait rien. J'en suis un peu étonné, on dit, mais pas du tout, c'est l'usage, c'est absolument normal. Dans le droit public français, les archives, les dossiers d'un président de la République lui appartiennent à lui et à ses collaborateurs, et donc ils les ont emportés. Il n'y avait rien. Il y a même un détail comique, parce que nous avons ici Philippe Sauzet, que j'ai aperçu tout à l'heure, et qui était chargé de préparer les papiers me permettant de nommer le Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac. Il n'y avait aucun dossier de référence. Je ne savais pas comment faire. Pour une feuille de papier, je nomme, je désigne, etc. Rien. Hein. Pas même des indications sur la manière dont le pouvoir se transmettait en France. Et depuis longtemps, j'avais l'idée, parce que je suis très respectueux des archives, j'ai lu les ouvrages d'histoire écrits par nos grands archivistes, en fait, très respectueux des archives, et je savais qu'il faudrait faire quelque chose dans ce domaine. Lorsque j'étais allé aux États-Unis, je m'étais renseigné assez vaguement, et on m'avait indiqué le système qui fonctionnait autour de la librairie du Congrès, où il y avait un dépôt obligatoire des archives présidentielles. Je me suis dit, ça doit être quelque chose de ce type qu'il faut faire. Mais il fallait engager une procédure. Alors très vite, Philippe Sauzet en question s'est mis en rapport avec le ministère de la Culture, une direction des archives, et a demandé qu'on nous affecte quelqu'un. On a cherché et on nous a envoyé Perrine Ramin, depuis Perrine Caravaggio, mais c'est la même. Et alors elle est arrivée, je n'ai pas été frappé par sa compétence en matière d'archives, je ne suis pas un jugé bien entendu, mais j'ai frappé par son élégance. Elle avait 25 ans, je crois à peu près.
26.
Ah, 26, mon Dieu. 26 ans, elle se tenait droite comme un lit, elle était devant, et je me suis dit, si tous les archivistes on la même allure, quel corps éminent au service de la République. Et j'ai vu tout de suite qu'elle avait une volonté très, très ferme. Parce que le problème des archives présidentielles, en réalité, c'est que les gens ne veulent pas les donner. Ça, le fond de l'affaire. Parce qu'ils ont peur. Ils vous font souvent des notes assez confidentielles ou assez politiques ou avec un, et ils se disent si on les voit sortir, si le régime change ou si d'autres viennent au pouvoir, je serai vulnérable et en danger, donc ils ne veulent pas les donner. Et Perrine a commencé une collecte semi-spontané. Enfin, je me suis débrouillé en disant il faut déposer les archives, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de texte de loi fixant leur statut. Ces archives étaient encore des archives privées. D'ailleurs, on en retrouvait, hélas, quelques échantillons chez des marchands d'autographes, et ainsi de suite. Alors, je lui ai demandé d'aller aux États-Unis, d'étudier le système américain. Elle a travaillé avec, naturellement, la direction des archives. Et on a élaboré le projet de loi qui allait devenir la loi de janvier, 3 janvier 1978. 19. Oui, 78, c'est informatique et liberté.
C'est tous les débats en 78.
Voilà. Alors, cette loi, dont on va dire un mot tout à l'heure, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle changeait? Elle disait, les archives des présidents de la République, il fallait en donner une définition, parce que c'est pas eux tout seuls. C'était ceux qui travaillaient avec eux, leurs services, leurs collaborateurs, y compris l'état-major particulier, les services étaient rattachés à la présidence. Ces archives sont des documents publics qui appartiennent à la nation. C'est un grand changement. C'est d'être des documents privés. Alors, se posait le problème de la collecte, mais je crois que tout à l'heure on va vous en parler, je n'en dis rien. Mais se posait également le problème du statut que ces documents publics auraient. Parce que lorsqu'un ancien président remet ses archives, si on considère que ce sont des documents publics, dès la remise, les successeurs sont habilités à les consulter, les utiliser, et ainsi de suite. Ce qui, dans un système politique sensible, avec des alternances normales d'ailleurs, n'est pas en soi satisfaisant. Et donc, il fallait trouver un autre système. Et le système a consisté à dire, on remet les archives aux archives nationales, on signe une convention avec la direction des archives concernant la conservation et la consultation de ces archives, et au bout de la période, elles deviennent des archives publiques. C'est la solution qu'on a inventée, que vous avez inventée entre la direction des archives, et qu'on a mis en œuvre. J'ai signé, je crois, cette convention en octobre, me semble-t-il, 78, 9, voilà. Et elle est toujours en vigueur. Alors, il y a eu depuis des réflexions. Un mot sur la longueur de la non-consultation. C'est un problème pour l'opinion difficile à comprendre, puisqu'ils disent à partir du moment où ces documents sont déposés, il faudrait qu'on puisse les lire. Là, vous avez par exemple, dans les pages 39-42, la liste de tout ce que j'en appelais les notes d'urgence, c'est-à-dire toutes les notes que tous les jours mes collaborateurs me faisaient pour solliciter des instructions. Tous les jours. Elles sont conservées et annotées par moi. Il y a en marge, oui, non, attends, j'ai besoin de réfléchir, votre idée ne me paraît pas satisfaisante, pas évidemment. Il y a ceci. Et il y a ensuite toutes les notes que m'adressait le ministre de l'Intérieur sur l'état de l'opinion. Vous connaissez la conception que les ministres de l'Intérieur ont d'état de l'opinion, qui consiste à chercher à la connaître en écoutant un peu derrière les portes. Alors, il y a toutes les notes des ministres de l'Intérieur successifs, c'est-à-dire Michel Piotrowski et Christian Bonnet, pour cette période. Évidemment, on ne peut pas les livrer à la publication, car on cite des noms, on cite des attitudes, et ça n'est pas possible. Alors, le délai qui a été fixé par les archives, moi je n'y suis pour rien, c'est un délai de 60 ans. En réalité, le délai de droit commun est de 30 ans, et on a dit il y a des exceptions, il y a 2 ou 3 exceptions en fait, dont les archives présidentielles, c'est 60 ans, mais à mon avis ce délai normalement on devrait le rallonger parce qu'il était calculé sur l'espérance de vie de l'époque. Et comme l'espérance de vie allonge, il va falloir probablement revoir ce délai. Dans l'intervalle, il y a des consultations. On peut demander à consulter. Il y a une petite procédure, ça transite par vous, par votre ministère, madame, et ensuite on consulte le propriétaire d'une archive qui donne une réponse. Je donne une réponse positive lorsqu'il s'agit de travaux universitaires ou de recherche. c'est-à-dire quelqu'un qui rédige un mémoire, une thèse sur période sensible, ainsi de suite, je donne l'autorisation. Lorsqu'il s'agit d'écrire un roman, une biographie romancée des personnages de l'époque, je laisse les auteurs de biographies romancées s'inspirer des rumeurs et je ne souhaite pas mettre à leur disposition des documents. Il a eu une idée de réforme. Je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. Parce que actuellement, dans le système, comme les anciens présidents, rarement ne vivront pas leur âge de départ plus 60. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe après eux. Et on nous dit de désigner quelqu'un. Alors moi j'ai désigné mon fils aîné, Henri, j'aurais pu désigner le fils cadet, parce que je vois qu'il est là. Le président Mitterrand a, je crois, désigné Hubert Védrine, je crois.
Tout à fait.
Oui. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise solution, parce que sinon, on dit, c'est le ministère qui le fera. Et je trouve que c'est mettre sur le dépôt du ministère tout de même des responsabilités ou des éléments un peu inconfortables, parce que le refus n'est pas toujours facile à articuler, justifié. Ce que je voudrais dire en conclusion de cette trop longue intervention, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, c'est que je souhaitais que ma présidence de la République, donc 74-81, soit la mieux documentée de toutes celles qui l'ont précédée. Et grâce au travail que vous avez fait, au travail de classement d'abord héroïque, soit 600 mètres de papier classés sur les rayonnages, je vais rétablir dans leur cohérence, 600 mètres. Quant à la maison, on cherche à ranger 1,50 m, j'ai même par terre. 600 mètres. Donc, un travail considérable. Une intelligence, parce qu'il fallait classer les matières. Et elles sont très classées. Vous avez par exemple de tout. Vous avez les rencontres internationales, mais vous avez aussi les menus des chasses à Rambouillet. Hein. Vous avez tout, absolument. Et ça pose en finale le problème des rapports entre les archives et l'histoire. Alors c'est une lutte, parce que une compétition de longue date entre les historiens et les archivistes, je suis dans le camp des archivistes. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas de bonne histoire sans archives. Il n'y en a pas. Cela ne veut pas dire que les archives, c'est toute l'histoire. Parce qu'en effet, il y a des choses dont on ne rend pas compte, qui sont les processus de réflexion, d'interrogation, les arrière-pensées, les humeurs, les fragilités de santé, et ainsi de suite, toutes sortes de choses qui n'apparaissent pas dans les archives. Mais autant il est impossible d'avoir une bonne histoire sans archives, en même temps il faut avoir la modestie de dire que les archives ne sont pas l'histoire. L'histoire sera écrite par d'autres. Et je souhaite qu'il puise dans ce beau document, Madame le ministre, tous les renseignements, toutes les informations qui leur permettront de serrer de près l'histoire fascinante et, à vrai dire, assez brillante de cette époque. Je vous remercie.
Après ces détails et explications fournis par M. Valéry Giscard d'Estaing, c'est M. Jean-Philippe Leca, qui fut son ministre de la Culture de 1978 à 1981, qui, à son tour, est intervenu, centrant ses propos, vous allez l'entendre, sur l'intérêt des archives pour la recherche historique.
Grand honneur, grand privilège et grande charge, qui est la mienne aujourd'hui. Tâche redoutable car il s'agit de dire l'apport des archives présidentielles pour l'histoire des relations internationales. Plusieurs remarques liminaires sont indispensables. On vient de le dire, ces archives sont immenses. Ayant profité pendant trop peu de temps de la dérogation large, mais pas totale, qui m'a été accordée, il m'était difficile, même en y consacrant tout mon temps, de lire une partie des archives consacrées à la politique étrangère. Ce que je vais dire est donc fondé sur des sondages que j'ai effectués et a par conséquent une valeur limitée. Bien plus, pour savoir ce que ces archives présidentielles apportent, il conviendrait de connaître les autres archives, celles du ministère ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie et des Finances, de Sud de la Défense, etc., etc., sans compter les archives des États avec lesquels la France entretient des relations. De ce point de vue, il me paraît intéressant de rappeler qu'à la date de décembre 2007, janvier 2008, les documents diplomatiques allemands sont publiés jusqu'à l'année 1977, que les archives diplomatiques britanniques, les archives britanniques tout simplement, sont théoriquement ouvertes dans la limite exacte des 30 ans. Et vous en avez un écho dans les journaux qui paraissent généralement le 1er janvier, voilà les révélations des archives britanniques. Que les archives diplomatiques américaines sont ouvertes pour toute la période, qui va jusqu'à la fin de la présidence Carter, que les archives présidentielles de Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter sont en partie consultables. Chacun des présidents, depuis Roosevelt, et cela a été mentionné tout à l'heure, a son lieu de mémoire et sa bibliothèque présidentielle. Celle de Jimmy Carter, par exemple, qui se trouve à Atlanta, est particulièrement riche et comprend, entre autres, une bibliothèque, un musée, un espace pour les jeunes et évidemment les archives de la présidence, c'est-à-dire les papiers du président, dont son journal personnel. Chaque soir, ou presque, il dictait ce qu'il souhaitait faire retenir par la mémoire de ce qu'il avait fait quotidiennement. Cela fait 5000 pages qui ne sont pas consultables normalement pour l'instant. Les papiers de la Maison Blanche, les papiers de chacun de ses conseillers, on parlait tout à l'heure du nombre de conseillers, je signale qu'il avait en particulier un conseiller pour les femmes, un conseiller pour les Noirs, un conseiller pour les Juifs, donc vous voyez le nombre de papiers que cela peut inférer. Il faut y ajouter les archives audiovisuelles, les archives orales, et en particulier je signale ce qui est un élément essentiel des archives américaines et qu'il faudrait probablement imiter, suivre en France, c'est ce qu'on appelle les exit interviews. C'est-à-dire que, à la fin de la présidence, à la fin d'une administration, des archivistes, des historiens sont chargés d'interviewer les membres de l'administration qui sort pour avoir leur point de vue, leur témoignage. Je donne un exemple. Celle de Brzezinski fait 91 pages. Et je remarque entre-temps qu'il s'agit d'interviews qui ont été transcrites. De mon point de vue d'historien, je voudrais me réjouir que les archives des présidents successifs de la Ve République soient versées aux archives nationales, et puisqu'il me semble important de reconnaître et de faire connaître les aspects positifs de la recherche en France, je dirais ceci. Si l'on veut étudier les relations franco-américaines durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, aux États-Unis, il est nécessaire, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, de parcourir les États-Unis d'une côte à l'autre, pour Nixon à Maryland Park et maintenant en Californie, pour Gerald Ford dans le Michigan, pour Carter en Géorgie, en France. Il suffira bientôt d'utiliser les transports en commun parisiens pour aller à Pierrefitte ou à La Courneuve. Je voudrais moi aussi rendre hommage aux soucis manifestés par le président Giscard d'Estaing pour la conservation des archives présidentielles et saluer la publication de ce splendide inventaire réalisé par les archives nationales. Il ne me reste plus qu'à souhaiter, en tant qu'historien, une ouverture aussi libérale que possible de ces fonds, et je m'associe bien volontiers à la conviction exprimée par le président. Je cite, « J'ai compris que la réputation des hommes du passé tenait moins à leurs défauts ou à leurs qualités propres qu'au talent et la bienveillance de leurs biographes, et je me permettrai d'ajouter à l'existence d'archives et à l'intérêt qu'elles peuvent susciter. » Bref, me prononcer sur l'apport spécifique des archives présidentielles est une tâche non seulement redoutable, mais en réalité insurmontable. C'est probablement pour cette raison qu'Isabelle Neuschwander me l'a proposé. Dans ces conditions, permettez-moi de renverser les termes du débat et d'essayer de vous expliquer ce qu'un historien peut espérer trouver dans les archives et par conséquent ce que j'ai découvert dans les quelques pièces du fonds présidentiel que j'ai pu voir. Là aussi, une remarque s'impose, les archives écrites ne sont pas la seule source de la connaissance historique. Les archives audiovisuelles sont signifiantes, je pense en particulier aux albums photographiques et aux excellentes photos où l'on voit le président Giscard d'Estaing entouré de ses collègues africains, ce qu'évoque très bien Raymond Barre dans son livre d'entretien qui cite au propos, monsieur le président, vous lui confiez combien il est, je cite, enrichissant et reposant de discuter avec les dirigeants africains. De ces photos, cela apparaît assez clairement. Les archives ne disent pas tout, surtout dans un monde où l'oral est de plus en plus prégnant et où les problèmes sont souvent résolus par des tête-à-tête, en particulier au téléphone. De ce point de vue, je me permets de signaler que les archives de la chancellerie allemande ont conservé la transcription des conversations téléphoniques entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Plusieurs d'entre elles sont reproduites dans les documents diplomatiques allemands. Un exemple, au cours de la conversation téléphonique du 8 septembre 1976, deux points sont abordés. Le président français fait part au chancelier allemand du changement de gouvernement qui a eu lieu le 25 août. Il lui est apparu nécessaire d'avoir un autre premier ministre pour des raisons fondamentales, dit-il, qui tiennent à la fois à la politique intérieure et européenne. L'autre point abordé est la question du terroriste Carlos, qui envisage une opération contre la République fédérale pour provoquer la libération des terroristes allemands. Je n'ai pas trouvé de documents semblables dans les archives présidentielles. N'allez surtout pas croire que les historiens aiment écouter aux portes, mais ils savent d'expérience que les entretiens en tête-à-tête, les conversations téléphoniques, les lettres personnelles ont une dose d'authenticité incomparable. Les archives ne disent pas tout, en particulier pour tout ce qui se rapporte au contexte, à l'atmosphère, au vécu. C'est pourquoi les historiens lisent avec gourmandise et circonspection les mémoires avec tous les risques que cela comporte. De ce point de vue, on doit être reconnaissant au président pour ces trois volumes de mémoires qui nous introduisent au cœur du pouvoir, sans pour autant oublier la vie. Nous sommes intéressés, voire passionnés, par les descriptions et le grand souci des détails qui restituent admirablement l'atmosphère. Le visage bronzé d'Henry Kissinger, le regard marron du premier ministre d'Iran, Oveida, aux yeux sillonnés de vénules rouges, le teint foncé, presque noir, du président Sadat, la peau plissée de petites rides du président Carter, le rideau des paupières d'Oufouette Boigny à demi rabaissé sur les yeux. Deux regrets toutefois. L'un qui tient à l'écriture de ses mémoires, dont la démarche n'est pas complètement chronologique et les épisodes de politique étrangère dispersés dans les trois volumes. Mais cette dispersion naturelle aurait pu être compensée par l'existence d'un index qui n'existe pas. Et je crois que vous pourriez insister auprès de votre éditrice préférée pour que dans de prochaines éditions, il y en ait un. Grâce à l'index, précisément, on trouve des portraits flatteurs du président français dans les mémoires de ses homologues. Par exemple, Gerald Ford rend hommage à votre décontraction et rappelle le souvenir de la rencontre de la Martinique en décembre 1974, où les deux présidents, Ford et Giscard, et les deux ministres des Affaires étrangères, Sauvagnard et Kissinger, prennent un bain dans la piscine. D'un ton narquois, Ford écrit, je cite, « Je dois admettre que voir Henri dans son caleçon de bain bleu fut pour moi une expérience nouvelle. » Quant à Jimmy Carter, il écrit dans son journal ses impressions sur ses collègues. Il n'a pas grande estime pour Helmut Schmidt, qui passe son temps à donner des leçons aux autres, et pour Margaret Thatcher, « Madame, je sais tout ». En revanche, je cite, Carter dans son journal. Valéry est un homme très compétent. Il est décidément mon favori parmi les Européens. C'était au début. C'est là que je voudrais entrer un peu plus dans la fabrication interne de l'histoire. Qu'est-ce qu'un historien cherche à savoir? Bien sûr, il doit mettre à jour la chronologie des faits, mais c'est pas l'essentiel. Il peut y avoir des débats sur l'antériorité ou non d'un fait par rapport à un autre. Mais cela se règle assez facilement. Plus importante est l'interprétation de ces événements et la réponse à ces deux questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi le président Valéry Giscard d'Estaing s'est-il rendu à Varsovie? Comment la création du Conseil européen a-t-elle eu lieu? Ce qu'un historien cherche à savoir Et pourquoi à tel moment, telle démarche a eu lieu, comment telle décision a été prise, ce qui n'est pas accessoire et parfois peut expliquer le pourquoi. Dans une démocratie, même présidentielle, le président n'est pas le seul à imprimer sa marque. Les différentes administrations ont leur rôle à jouer, sans compter la presse, les lobbies, etc., etc. De ce point de vue-là, les archives de la présidence sont éclairantes, extraordinairement précieuses, et cependant, je voudrais expliquer pourquoi les historiens doivent aussi chercher ailleurs. Pour cela, je vais choisir deux exemples, l'un au début, l'autre à la fin du septennat, la création du Conseil européen et le voyage à Varsovie. S'agissant de la percée décisive dans le domaine de la construction européenne, c'est-à-dire la création du Conseil européen, décembre 1974, la nécessité d'une relance est ressentie un peu partout. Le contexte international est préoccupant, c'est la crise énergétique, la fin de la guerre du Vietnam, l'agonie de la présidente Nixon, les États-Unis apparaissent en déclin. L'Europe est en panne, en raison des lendemains difficiles de l'adhésion de trois nouveaux membres et la volonté de renégociation de la Grande-Bretagne. Quelques mois plus tôt, le ministre français des Affaires étrangères a qualifié ses partenaires européens de traîtres. En décembre 1974, cependant, les neuf créent le Conseil européen, percée décisive, avancée remarquable, institution devenue essentielle. Comment cela a-t-il été rendu possible ? À qui le doit-on ? Valéry Giscard d'Estaing revendique d'en avoir été l'initiateur. Dans ses mémoires, il parle de, je cite, « mon initiative de création du Conseil européen ». D'ailleurs, Jean Monnet l'en a félicité. Je cite, « la création du Conseil européen vous est due ». Mais le même Jean Monnet, dans ses mémoires, dit pratiquement que c'est lui qui, avec son projet de gouvernement européen provisoire, a inventé le Conseil européen, qu'il en a parlé à Giscard et que Giscard a immédiatement accepté cette idée. Les archives présidentielles nous apportent des informations précieuses à compléter par les archives diplomatiques. On y trouve en effet une note du conseiller diplomatique à l'Élysée, Gabriel Robin, appelant à une relance. Je cite, « l'Europe est en train de se défaire, il est de notre intérêt de la relancer ». On y trouve l'invitation de Valéry Giscard d'Estaing à un dîner informel. Et vous avez le document dans les vitrines, dans le salon voisin, adressé à ses partenaires européens pour, je cite, « s'entretenir de l'état actuel des problèmes européens ». Remarquez le caractère vague de la formule. Elle est volontaire parce que, précisément, le moins qu'on puisse dire, c'est que les partenaires européens étaient réticents. La question de la présence du président de la Commission européenne se poser. Les Beneluxiens la considéraient comme indispensable. Et pas vraiment le Premier ministre britannique qui écrit un mot au président Giscard d'Estaing en disant « bon, j'accepterai ce que vous ferez à cet égard ». Mais avant d'aller au dîner, les Néerlandais sont préoccupés, le font savoir. À quoi pense le président ? Veut-il vraiment aborder l'échange de vues sans idée préconçue et sans dogmatisme ? Dogmatisme. Rappelez-vous ce terme. Quant aux Britanniques, ils font savoir discrètement que, de leur côté, ils sont hostiles à la remise en cause du compromis de Luxembourg et à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage direct, et ils comptent sur les Français pour aller dans leur sens. Il existe aussi un bref compte-rendu de ce dîner. Je cite, « le dîner a manifesté un bon climat des relations entre pays européens. Aucun chef d'État n'a fait preuve de position résolument négative. Même M. Wilson s'est comporté de manière aussi constructive que possible. Il s'ensuit une négociation difficile qui dure 2 mois. En raison des objections des pays du Benelux, les archives présidentielles sont abondantes sur la préparation du sommet. Et la rencontre a lieu les 9 et 10 décembre, sur laquelle on a des notes manuscrites de Valéry Giscard d'Estaing. Je cite, trop peu de rencontres, le détail l'emporte trop souvent sur la vue d'ensemble, le monde s'organise, l'Europe doit s'organiser. Et à la fin du sommet, le discours de clôture, selon la formule du président Giscard d'Estaing, nous avons assisté au dernier sommet européen et participé au premier conseil européen. Le sommet européen est mort, vive le Conseil européen. D'autres documents qui se trouvent dans les archives diplomatiques ont pu alimenter la réflexion du président. Le ministre des Affaires étrangères tire profit de ses vacances en Corse au mois d'août pour rédiger une série de notes de réflexion qui débouchent sur un mémorandum dont la proposition essentielle est la création d'un Conseil européen compétent à la fois pour la coopération politique et les questions communautaires. Jean Sauvagnargue reçoit Jean Monnet juste avant le moment où le ministre doit remettre son mémorandum au président et lui fait lire son texte. Et je cite l'interview de Jean Sauvagnargue donnée aux archives Jean Monnet, il s'est déclaré d'accord avec l'ensemble du texte. Alors, à qui revient le mérite? Jean Monnet, Jean Sauvagnargue, Valéry Giscard d'Estaing. Il semble bien que, sans aucun doute, et vous ne m'accorderez de ne pas faire la démonstration là, que cette création soit due à Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Elle porte sa marque, celle d'une volonté claire de relance exprimée d'ailleurs lors de la campagne électorale. Alors, je ne vais pas développer le deuxième exemple que je voulais développer concernant Varsovie, mais je voudrais dire tout de même que dans les archives présidentielles, de ce côté-là, sur les relations franco-soviétiques, les comptes rendus d'entretien entre Valéry Giscard d'Estaing et Léonid Brejnev sont passionnants. Les échanges sont à la fois très directs et très répétitifs. Par exemple, très direct, le 6 décembre 1974, au cours d'un tête-à-tête, Brejnev s'adresse au président. Je vous ai appelé jusqu'ici, monsieur le président, permettez-moi de vous appeler Giscard. Et dans ces entretiens, ces verbatims qui sont absolument passionnants, Brejnev revient constamment sur les mêmes sujets, en harcelant ses interlocuteurs français. Au fond, qu'est-ce que vous voulez? C'est revenir dans le temps. C'est cela. Pourquoi est-ce que vous êtes si proche des Allemands revanchards? Et vos armes nucléaires, contre qui sont-elles dirigées? Avec courtoisie et fermeté, Valéry Giscard d'Estaing se défend. La position de la France est inchangée, notre politique reste fondée sur l'indépendance nationale. Alors, c'est vrai que sur la prise de décision d'aller à Varsovie rencontrer Léonid Brejnev, il y a des éléments extrêmement intéressants, en particulier les différentes personnes de l'entourage du président qui prennent des positions qui sont contradictoires, et le président y va, et nous avons donc un verbatim extrêmement intéressant des entretiens de Villeneuve que complète le président Giscard d'Estaing dans ses mémoires, puisqu'il y a eu un tête-à-tête qui n'a pas fait l'objet d'un verbatim. Je signale tout de même que, et pour bien montrer que les historiens doivent aller chercher ailleurs, dans les archives du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-François Poncet, ici présent, il y a une richesse de documentation extraordinaire, et en particulier, je signale, le moment où on pourra y accéder, des papiers étonnants provenant du centre d'analyse et de prévision, pratiquement quotidien, sur tout ce que pensent les gens qui sont au CAP à ce moment-là, Jean-Louis Gergerin et Salomé Zourabichvili. Voilà. Alors, en conclusion, je voudrais faire deux remarques et tirer un enseignement général. La première remarque concerne le fait que tous les entretiens du président n'aient pas donné lieu systématiquement à des procès-verbaux. La série Entretiens et messages des archives de la présidence de Gaulle est fascinante parce que la pensée du général s'exprime dans les dialogues qu'il entretient avec tous ses interlocuteurs. Alain Perfit ne s'y est pas trompé, qui a très largement utilisé ses archives pour ses livres. L'autre a trait au dossier des conseillers diplomatiques, qui sont d'un intérêt documentaire exceptionnel. Mais, monsieur le Président, vous avez annoté trop peu les documents qui vous ont été soumis. Et parfois, il est difficile de reconstituer les processus de décision et précisément ce que vous pensez à propos de ce que disent tel ou tel des conseillers. Alors, si parfois on peut regretter de ne pas en savoir davantage sur ce que pense le chef de l'État, il faut le chercher dans les comptes rendus des conseils des ministres. Les extraits que j'ai pu consulter dans les archives sont d'un intérêt prodigieux, même si les guillemets ne sont pas ouverts, et si les propos sont rapportés au style indirect, on sent bien qu'il s'agit de la pensée du président, et on y retrouve les analyses qui éclaire les affaires les plus complexes. Ainsi, énonce-t-il dès le Conseil des ministres du 23 janvier 1980 la décision de non-participation française au boycottage des Jeux olympiques de Moscou. Je cite, « Le président de la République estime que la remise en cause des JO ne constitue pas un moyen approprié pour atteindre l'objectif du retrait et il conclut « Nous allons donc vers des périodes difficiles et il est plus que jamais nécessaire de maintenir l'autonomie de la politique étrangère française. » Quant à la leçon à tirer de cette plongée dans les archives présidentielles, je dirais qu'elle amène à la conclusion fort banale que sous la Ve République, le président est le centre du pouvoir en matière de politique étrangère et que le vrai ministre des Affaires étrangères, en définitive, c'est le président. C'est pourquoi les archives présidentielles sont d'un apport essentiel à la connaissance de l'histoire des relations internationales de cette période, et c'est pourquoi je souhaite évidemment, en tant qu'historien, une ouverture aussi large que possible, aussi aisée que possible, et je vous remercie de m'y avoir laissé y pénétrer.
Après Jean-Philippe Leca, ancien ministre de la Culture, sont intervenus successivement plusieurs archivistes. Madame Perrine Cannavaggio, qui évoqua la manière dont s'opéra à l'époque la collecte des archives de la présidence de la République. Monsieur Pascal Geneste, conservateur du patrimoine aux Archives nationales de Paris, qui expliqua la façon dont a été dressé cet inventaire des archives de la présidence. Et enfin, M. Maurice Weiss, historien, professeur à Sciences Po, qui souligna l'apport des archives présidentielles pour l'histoire des relations internationales. Après ces trois intervenants, le président Giscard d'Estaing a repris la parole en guise de conclusion, soulignant en quoi les archives servent à l'histoire et aux historiens. Écoutez-le.
Ça n'est qu'un inventaire. Et donc, lorsqu'on renvoie à la page je ne sais quoi, les documents correspondants aux archives peuvent avoir 25 pages ou 30 pages. Donc ça n'épuise pas du tout la matière. Deuxièmement, naturellement, les historiens, c'est tout à fait légitime, sont assoiffés d'informations. Et plus ces informations sont cachées, plus ils en sont assoiffés. C'était pas tellement ma manière de fonctionner. Hein. Je pensais au contraire que la politique étrangère doit être relativement lisible. Et donc, à la différence d'autres époques ou d'autres méthodes, on pouvait la suivre. On arrivait à la suivre. Ce qui est vrai, de toute évidence, c'est que l'importance désormais prise par l'image et l'image audiovisuelle change en partie le problème. Car il va falloir avoir le même travail ou des travaux équivalents, plus difficiles à consulter, plus difficiles à classer d'ailleurs, un grand problème. Parce que on s'exprime les uns les autres au travers des outils audiovisuels. Quant à l'idée que il faudrait que l'on fasse enregistrer, que l'on dise l'état intime de ses réflexions, par exemple, les conversations téléphoniques, même l'interrogation personnelle sur un sujet quelconque. Je n'en suis pas très partisan. Moi, j'avais gardé au téléphone avec mes collègues le caractère d'un instrument mutuellement de confidence. Nous voulions pouvoir nous parler. Si c'est enregistré, c'est fini. Parce qu'on sait d'abord que c'est connu tout de suite, la CIA est présente partout, etc. Et la méfiance s'instaure. Donc on ne peut plus vraiment parler. Deuxièmement, vous aimeriez bien que le soir, quand on rentre, il est 10h30, on est un peu fatigué, on réfléchit, on prenne une plume et qu'on écrive une note pour la documentation des historiens. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Et vous avez une démarche qui est une démarche humaine qui fait qu'à certains moments vous interrogez, à certains moments vous passez par des hauts, par des bas, etc. Même dans les trajets, les longs trajets d'avion pour aller par exemple à Varsovie, je n'ai pas écrit au fur et à mesure tout ce que j'ai pensé aux différentes étapes du trajet. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Le domaine de l'historien reste large. fait. Il peut chercher à avoir un peu plus de matière. Il n'aura pas la matière qu'il cherche, c'est-à-dire la description détaillée des états d'âme quotidiens, diurnes et nocturnes des dirigeants. Il ne l'aura pas. Donc ils doivent les reconstituer par des approches, par des informations, etc. Comme ça a été dit sur le ministère des Finances, c'est aussi la même chose. La France n'est pas un pays qui aime la transparence. Malheureusement. Je ne vois pas ce qu'elle gagne à cacher beaucoup de choses. Mais c'est un fait. Alors, lorsque j'étais ministre des Finances, j'ai essayé d'avancer dans cette direction. Il y avait à l'époque de très grands directeurs, ce qui était important. La hiérarchie était très forte et on avait des directeurs avec lesquels on pouvait précisément essayer d'instaurer des systèmes de, à la fois d'archives, mais aussi d'enregistrement, de décisions et ainsi de suite. Nous l'avons fait et ça n'a pas été beaucoup poursuivi depuis. Et alors, regardez comme c'est vrai également sur le plan européen. Je vous écoute. La Convention européenne était totalement transparente. Toutes les réunions étaient ouvertes au public, toutes. Tous les textes étaient le jour même mis sur Internet, dans un assez grand nombre de langues, je ne m'en peux plus combien, mais enfin un nombre considérable de langues, depuis le début jusqu'à la fin. La dernière CIG n'a pas été ouverte au public. Les textes en cours de négociation n'ont pas été mis sur Internet. Donc il y a dans la société contemporaine une espèce... Est-ce que c'est une volonté de protection? Est-ce que c'est une crainte d'une lumière trop forte? Je ne sais pas. Mais ça ne va pas nécessairement dans le sens de la transparence. Moi, je voudrais, comme vous le quittez, vous remercier, madame la ministre, d'avoir organisé cette manifestation extrêmement sympathique. Parce que le contenant est superbe. La salle est très belle. Le contenu est encore mieux.
Oui,
c'est notre cabinet. Voilà, le cabinet, mais d'autres qui ont participé à la vie de cette époque. Et je m'interroge toujours sur, au fond, qu'appelle-t-on le bon gouvernement? Et je pense de plus en plus que l'exercice du pouvoir, décrit dans cet ouvrage, Printemps 74, Printemps 81, était une tentative de bon gouvernement.
Vous venez d'entendre la majeure partie de la cérémonie de présentation officielle de l'inventaire des archives présidentielles sous le septennat de Giscard d'Estaing, une cérémonie enregistrée sur place dans les salons du ministère de la Culture le 30 novembre 2007. Thank you.